Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir, la 3e dose pour tous. Face à l'explosion des cas de Covid, le gouvernement fait le pari de la piqûre. Le rappel est ouvert à tous les adultes. Dans RTL Soir, on va tout vous expliquer sur ces nouvelles règles. Il va falloir remettre le masque à l'intérieur partout. Et puis le quotidien de vos enfants va également changer à l'école primaire. Décryptage, analyse à suivre et réaction aussi. Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris, mais aussi candidat à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle, sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 24 heures après la tragédie dans la Manche, on sera à Grande-Synthe sur les traces de l'un des 27 migrants retrouvés morts après le naufrage de leur embarcation. Des accusés volontairement absents au procès des attentats du 13 novembre. Et puis le football, 3 clubs français ce soir en Ligue Europe, Monaco, Lyon et Marseille. Le quintet à Vincennes, il fallait jouer le 4, le 16, le 6, le 9 et le 12.
Dans un quart d'heure, info RTL, les menaces et les agressions envers les élus explosent plus 80% depuis cet été et le débat sur le pass sanitaire, nous dira la brigade RTL. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du retrait de l'armée française au Mali avec notre envoyé spécial à Tombouctou. Ensuite, laissez-vous tenter dernière, on ouvre des livres érotiques, oui, ce soir. 18h40, on va défaire le monde, vos 20 minutes de curiosité avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, un mois tout pile de Noël, on s'intéresse à un incontournable, le sapin, un business qui n'aura plus aucun secret pour vous. Et puis, événement RTL, magie de Noël, on appellera en direct un numéro de téléphone au hasard, celui ou celle qui répondra gagnera 1000 euros. Eh oui, le Père Noël dont défait le monde est en approche.
C'est cadeau. 19h15, on va débattre, refaire le monde autour d'Éric Brunet, revenir notamment sur les nouvelles mesures face à l'épidémie et puis des points très réguliers tout au long de l'émission sur la météo avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Encore un temps gris demain et humide.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui annonçait tout à l'heure les nouvelles mesures pour faire face à la 5e vague de l'épidémie. Ni confinement, ni couvre-feu. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir à tous.
Le gouvernement compte beaucoup sur la vaccination avec la 3e dose, désormais ouverte à tous les plus de 18 ans.
Oui, rappel ouvert à compter de samedi pour tous les majeurs, 5 mois après la dernière injection. Ouverture donc beaucoup plus large, 19 millions de personnes actuellement éligibles et délai raccourci d'un mois. Grâce à ces deux mesures, selon les dernières modélisations de l'Institut Pasteur, eh bien on peut réduire de moitié le pic des hospitalisations, mais il faut évidemment une forte adhésion à ce rappel.
Bon, alors c'est même plus qu'une incitation, puisque le pass sanitaire va être désactivé si on ne fait pas cette dose de rappel.
Oui, à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans, l'annonce était déjà connue, et à partir du 15 janvier pour les 18-64 ans. Alors pour connaître exactement la date à laquelle votre pass ne sera plus valide, eh bien vous comptez 7 mois maximum après votre dernière dose.
Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il va falloir se faire tester encore plus souvent.
Absolument, parce que la durée de validité des tests ouvrant droit au pass sanitaire va passer dès lundi prochain de 72 heures à 24 heures. Attention, c'est 24 heures à partir du prélèvement. Un temps de validité donc plus réduit si on fait un test PCR avec un résultat qu'on obtient souvent le lendemain. Là, c'est vraiment un appel en direction des 6 millions de personnes qui n'ont reçu à ce jour aucune dose. Benjamin Davido, infectiologue, invité de RTL Midi.
Ça va en tout cas vers une mouvance d'un pass sanitaire, vers un pass vaccinal. C'est sûr que les tests à 24 heures vont encourager les gens de plus en plus à se faire vacciner. Vous imaginez que si vous faites cette activité durant la semaine, avant vous faisiez 2 PCR, là il en faudra 7. Ça paraît irréalisable. Encore une fois, l'objectif, c'est que pas d'hospitalisation, pas de forme grave, pas de restriction. Et je crois que c'est le cap que s'est fixé le gouvernement.
Bon, et alors un dernier point, le gouvernement appelle à se ressaisir sur le masque et sur les gestes barrières.
Oui, règle durcie pour le masque, il redevient obligatoire à l'intérieur des lieux recevant du public, y compris là où le pass sanitaire était réclamé, les restaurants, par exemple, les centres commerciaux ou les salles de spectacle, et puis à l'extérieur, dans des lieux avec une forte concentration de population, notamment par exemple les marchés de Noël.
Odile Pouget pour RTL.
Et conséquence directe des annonces du gouvernement, explosion des prises de rendez-vous depuis la mi-journée. 350 000 en une heure et demie seulement.
Oui, au total, même depuis les annonces, on en compte désormais environ 400 000. Véritable raz-de-marée qui s'est aussi fait bien sentir dans les centres de vaccination. Exemple avec Séverine qui travaille à l'accueil de l'hôpital de Grenoble.
Il y a beaucoup de monde hein, comparé aux autres jours. Là, j'ai atteint le record. Hein. C'est mon record personnel. Aujourd'hui, je pense qu'on va dépasser les 300 personnes largement. Il y a une recrudescence des personnes qui veulent se faire vacciner troisième dose ou première et deuxième dose. On prend les gens avec et sans rendez-vous. Et en plus, on a le personnel du CHU qui est venu en masse aujourd'hui. On n'est que deux à l'accueil, que deux aux attestations. On fait avec les moyens du bord. On gère tant bien que mal le monde d'aujourd'hui, quoi.
Des propos recueillis par Serge Peillot pour RTL.
Alors ça, c'est la vaccination pour les adultes. Et le gouvernement réfléchit aussi à la vaccination des enfants. Les doses Pfizer viennent d'être approuvées par l'Agence européenne du médicament pour les 5-11 ans. Dans tous les cas, ça n'aura pas lieu avant le début de l'année prochaine, a dit tout à l'heure le ministre de la Santé.
Oui, le gouvernement réfléchit à faire vacciner les plus jeunes parce que la cinquième vague est en train d'exploser dans les écoles. 8500 classes fermées aujourd'hui, c'est deux fois plus en une semaine.
Un chiffre qui devrait commencer à baisser à partir de la semaine prochaine, non pas parce qu'il y aura moins de contamination, mais parce que la règle va changer, Marie Garrier.
En primaire, c'est la fin de la fermeture systématique de la classe dès l'apparition d'un cas Covid. À la place, ce sera dépistage systématique des élèves dans la classe où il y a un cas positif. Ceux dont le test sera négatif pourront continuer à aller en cours. Alors, ça doit permettre un dépistage plus pointu et puis aussi limiter les fermetures. Et c'est déjà ce qui se passe dans 10 départements où le dispositif est expérimenté depuis la mi-octobre. Sur 700 classes testées après l'apparition d'un cas Covid, 400 ont pu rester ouvertes.
Les élèves vont donc être testés plus régulièrement. Concrètement, ça va se passer comment ?
Actuellement, dans les départements pilotes, c'est une équipe d'un labo hein, qui doit venir dans l'école pour tester la classe. Mais ça n'a pas toujours été possible pour des questions de disponibilité. Donc désormais, les parents seront aussi sollicités. Ils iront faire tester leurs enfants. Ensuite, ils devront présenter le résultat négatif pour permettre le retour en classe. Les tests PCR ou antigéniques sont gratuits pour les mineurs. La classe ferme le temps que les élèves obtiennent leurs résultats. Les familles qui ne veulent pas faire dépister leurs enfants, eh bien les garderont à la maison 7 jours.
Alors ça fait beaucoup réagir les syndicats d'enseignants et pas forcément dans le bon sens. Ils sont très inquiets, incompréhensibles pour eux de fermer les classes alors qu'on est en pleine cinquième vague.
Oui, danger et des raisons, dit le SNUIPP, mais du côté des parents, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'ils sont mis à contribution. Clara Dugot est la coprésidente de la FCPE.
C'est quelque chose que nous avions déjà demandé, que l'ensemble des élèves de la classe soient testés pour que les élèves qui ne sont pas touchés par le virus puissent continuer à apprendre à l'école, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est à l'école qu'on apprend le mieux. C'est vrai que les parents, à nouveau, vont être très mobilisés puisque les tests seront gratuits, mais il faudra que les parents aillent à la pharmacie, en fait, faire les tests avec les enfants. Donc, ça veut dire que les parents doivent partir alors qu'ils travaillent en journée. Ça reste quand même très compliqué. Donc, tout ça, il faut informer aussi bien les familles, mais aussi informer les employeurs pour que les choses se passent au mieux.
Alors ça va se mettre progressivement en place à partir de la semaine prochaine.
Les explications signées Marie Guerrier pour RTL.
Allez, une pause dans ce journal sur RTL et ensuite on va revenir sur cette tragédie. 27 morts dans la Manche, 24 heures après, les migrants, les exilés continuent à vouloir traverser coûte que coûte. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h09, 24 heures après la tragédie dans la Manche, Paris et Londres appellent à plus de coordination pour empêcher les traversées illégales.
Oui, on en sait encore très peu sur l'identité des 27 migrants morts hier suite au naufrage dans leur embarcation. Bonsoir Vincent Serrano.
Bonsoir.
Vous êtes à Grande-Synthe pour RTL où vous avez rencontré un groupe de migrants qui affirme connaître l'une des victimes.
Oui, le petit dernier de la bande, un adolescent de 14 ans à peine, avec lequel ils ont traversé ces 7 derniers mois toute l'Europe depuis l'Afghanistan. Et Jama se souvient très bien d'il y a 2 jours, en pleine nuit, ce moment où cet adolescent lui dit qu'il monte tout de suite sur un bateau pour rejoindre l'Angleterre.
Je me sens trop mal parce qu'avant de partir, il m'a demandé si je voulais venir avec lui sur le bateau. Mais je lui ai dit non, j'étais trop fatigué. Je lui ai souhaité bonne chance et il m'a dit au revoir. Il voulait une vie meilleure, pas mourir. Il était proche des gens, toujours souriant, petit par la taille, mais très intelligent. Il me manque terriblement.
Vous êtes sûr qu'il est mort sur ce bateau, mais vous allez quand même tenter votre chance.
Vous voyez où on vit, comment on est sale? On n'est pas des animaux, alors je peux bien mourir en mer.
Il lève alors les yeux au ciel et Muhammad pose sa main sur son épaule. Lui aussi connaissait très bien l'adolescent disparu. Avant qu'il parte sur le bateau, je lui ai dit qu'on allait se retrouver en Angleterre. Il n'a pas réussi, je vais y arriver pour lui. Jama et Muhammad m'ont dit que de toute façon, ils ont déjà payé 5000 euros chacun pour une place sur un Zodiac qui devrait partir dans les prochains jours.
Le reportage de l'envoyé spécial de RTL à Grande Synthe, Vincent Serrano.
Pour la première fois depuis le début du procès des attentats du 13 novembre, des accusés se sont rebellés.
Cindy Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place à la cour d'assises de Paris pour RTL. Quatre accusés ont refusé d'entrer dans leur box cet après-midi en signe de protestation.
Oui, il manquait l'appel. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osaya Krayem et Sofiane Ayari. Tous les quatre ont bien quitté la prison ce matin, mais ils ont décidé de rester dans la souricière, ces petits box d'attente ultra sécurisés, situés juste au-dessus de nous, dans les plafonds de la cour. Boycott de l'audience. On ne vient pas car les enquêteurs belges ne viennent pas. C'est en tout cas la raison invoquée par leurs avocats. Les policiers ont en effet refusé de faire le déplacement depuis Bruxelles pour des questions de sécurité. Ils seront donc entendus jusqu'en décembre en visioconférence, de manière anonyme, exactement comme la DGSI française, mais à visage découvert, spécificité belge. Ce soir, le procès se poursuit donc avec un box à moitié vide, et ce petit manège pourrait se répéter peut-être dans les jours à venir, a déjà laissé entendre l'avocate d'Abdeslam, même si mon client a joué jusqu'ici le jeu de l'audience.
Cindy Hubert pour RTL. Du football ce soir avec la Ligue Europe, Marseille se déplace à Galatasaray à partir de 18h45, 21h, Monaco face à la Real Sociedad et Lyon contre les Danois de Brøndby.
Et puis en Ligue Europe, conférence 18h45, Stade Rennais face aux Néerlandais de Vitesse Arnhem. Les matchs de Marseille et de Rennes à vivre bien entendu en fil rouge dès le coup d'envoi dans RTL Soir.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Jingle bells, jingle.
Nous sommes le 25 novembre, un mois tout pile avant Noël et RTL vous offre déjà des cadeaux hein, toute la journée. Des bons d'achat de 1000 euros à gagner pour un auditeur au hasard. Le prochain, ce sera dans quelques minutes dans On défait le monde.
Gardez le téléphone près de chez vous parce qu'on va piocher un numéro au hasard.
Ouais.
Au hasard, on va prendre l'annuaire, paf, Peggy Broche, on appelle.
En attendant, quelques idées à mettre sous le sapin. Par exemple, un parfum artisanal de la maison Bouchara à Grasse. Michael Lefebvre.
Oui, dans sa parfumerie authentique du Vieux Grasse, où les petits flacons dorés sont présentés sur de vieilles étagères en bois, Lynn Bouchara nous présente Violine, une fragrance particulière pour homme ou femme, créée il y a quelques années selon les désirs d'un luthier italien de Crémone.
Ce personnage voulait absolument avoir l'odeur de son atelier de son violon. Donc, il nous a apporté des morceaux de bois de violon, de la résine, du vernis, de la colophane. On lui a vraiment construit l'odeur qu'il souhaitait avoir et présenter à ses clients et vendre dans son atelier. Et c'est un succès fou.
Alors on va le sentir peut-être un peu.
Allez,
qu'est-ce qu'on va sentir là alors?
Alors c'est bien sûr une note qui est très boisée dans laquelle on trouve beaucoup de bois de cèdre, mais on trouve de la cardamome, on trouve en note de tête du pamplemousse, du jasmin, une petite pointe de cannelle et du musc blanc, entre autres. Hein.
Des senteurs qui nous transportent directement dans l'atelier de ce luthier. Et pour retrouver l'arôme du violon capturé dans la bouteille de Violine, il faudra débourser 55 euros pour un flacon de 50 millilitres.
Voilà le reportage de Mickaël Lefebvre à Grasse pour RTL.
Alors on a plein de petites idées de cadeaux comme ça depuis le début de la journée sur RTL. Merci Alexandre, vous revenez tout à l'heure pour nous rappeler les grands titres de l'actualité à 18h30. En attendant, Peggy se dérange sur Maria Carré, elle n'est pas du tout concentrée, mais elle va quand même tenter d'assurer la météo.
Mais en plus, on a de la neige qui va arriver. On est en plein dans Noël, essentiellement en montagne, mais sur les plaines également dans la nuit. On en reparlera. En tout cas, pour trouver du soleil demain, ça va être compliqué. Il faudra juste aller près de la Méditerranée, ailleurs. C'est vrai que le temps sera gris partout. En Corse, un temps instable avec des averses orageuses, de la grisaille et beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays, avec des averses et de la neige en montagne à basse altitude entre les Pyrénées, le Massif central et la façade est le matin. Et l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Manche en plus avec du vent, elle va progresser jusqu'en Île-de-France l'après-midi. Puis on retrouvera peut-être quelques trouées entre le sud-ouest et le nord-est en journée, mais toujours humide avec beaucoup de nuages. On se couvre le matin, les températures sont encore froides. Et l'après-midi, de 2 degrés à Langres, à 15 à Nice, 3 à Grenoble, 4 à Nancy, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 à Tours, 11 à Biarritz. Et dans la nuit de vendredi à samedi, on attend de la neige en plaine entre le Massif central et le nord-est. Il pourrait y avoir localement entre 1 et 5 cm.
C'est noté. Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, grand plan sur la hausse vertigineuse des menaces, des agressions envers les élus. C'est une info RTL, ces intimidations explosent, plus 80% depuis cet été. Un exemple, avant-hier, notre invité dans RTL Soir était un député LREM, Ludovic Mendès, menacé de décapitation des courriers, des messages qu'il reçoit régulièrement.
Ça va beaucoup trop loin, dans le sens où en plus ces personnes sont simplement des lâches. J'appelle ça des terroristes de canapé, parce qu'en fait ils se mettent derrière leur ordinateur et se prennent pour des personnes surhumaines. Mais honnêtement, ça ne m'empêche pas de me battre. Ça inquiète ma famille, ça inquiète mes amis, ça inquiète mes proches.
Ce que j'allais vous demander, malheureusement, est-ce que vous avez peur, Ludovic Mendès?
Alors, aujourd'hui, non, je n'ai pas peur. Et j'assume de dire que je n'ai pas peur, parce que je pense que cet engagement est beaucoup plus fort que tout le reste.
Alors, après un tel témoignage, RTL a décidé d'enquêter. Nous allons poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Vous nous le révélez, ces menaces, ces agressions augmentent de 80% en moyenne, c'est considérable.
Hein. En effet, cela vient confirmer ce que l'on percevait au travers des multiples témoignages qu'on a entendus ces dernières semaines. Depuis juin, le ministère de l'Intérieur décompte en moyenne 145 agressions, menaces ou outrages par mois sur des élus. C'était 80 par mois au début de l'année, une hausse donc de 80%, vous le disiez. Le pic a été atteint lors de l'annonce de la mise en place du pass sanitaire en juillet avec 191 faits. Depuis, ça baisse, mais le niveau reste très élevé.
Cette augmentation soudaine, elle s'explique ?
Alors, un tiers de ces faits sont directement liés à la contestation des mesures sanitaires. De manière plus large, une source au ministère de l'Intérieur souligne le lien avéré d'une part avec le mouvement anti-vaccin, d'autre part avec l'émergence d'une certaine violence d'extrême droite décomplexée, avec une certaine prudence tout de même, car le phénomène est en cours d'évaluation par les services de renseignement.
Quels sont les élus les plus visés ?
Alors, en grande partie des maires et leurs adjoints, cela représente plus de la moitié des agressions et des menaces depuis début août, toujours selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une précision à apporter par rapport à l'année 2020. La hausse des violences contre les élus n'augmente à ce jour, n'est à ce jour que de 3%, mais 2020 était déjà un cru exceptionnel avec une mobilisation très dure contre la réforme des retraites avant le premier confinement, souvenez-vous. Il y a eu ensuite une accalmie et le phénomène a repris fortement.
Les explications et les infos RTL de notre brigade Thomas Proutot, merci beaucoup. Une pause et on va continuer sur RTL de décrypter, d'interroger les nouvelles mesures anti-Covid. Est-ce que ce tour de vis était nécessaire? Est-ce qu'il est suffisant? Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris et candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, sera notre invité. Vous restez à l'écoute, on se retrouve juste après ça, tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir, à vos côtés donc pour décrypter, pour commenter, pour analyser encore ce soir ces nouvelles mesures anti-Covid. Si vous nous rejoignez à l'instant, bref rappel, le gouvernement a annoncé à la mi-journée la troisième dose pour tous les adultes, dès 5 mois après la deuxième dose. Le rappel sera nécessaire pour garder son pass sanitaire. Pour les non-vaccinés, les tests auront une durée valide de 24 heures désormais seulement. Et puis à l'école, terminer les fermetures de classe au premier cas, mais net renforcement du dépistage. Ce soir, notre invité va notamment réagir à ce tour de vis. Bonsoir Philippe Juvin.
Bonsoir.
Vous êtes à la fois chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, à la fois maire de la Garenne-Colombes en région parisienne et à la fois candidat Les Républicains à l'investiture du parti pour la présidentielle. La courbe des cas, Philippe Juvin, est assez vertigineuse, mais on a l'impression que reparler de jauge, de couvre-feu, c'est un peu tabou. Est-ce que ce serrage de vis, selon vous, est à la hauteur? Est-ce qu'il peut vraiment briser cette dynamique exponentielle du virus?
D'abord, on n'a pas d'autres possibilités pour freiner la dynamique du virus que la vaccination et les gestes barrières. Donc, je crois que la décision d'ouvrir la troisième dose au-dessus de 18 ans, sans limite d'âge, donc après 6 mois, c'est une bonne décision. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je dis qu'il faut la prendre. Je suis content que le ministre ait pris cette sage décision. La question qui se pose désormais, c'est la capacité logistique pour la faire. Et vous voyez, là, je vous parle cette fois-ci avec ma casquette de maire. J'avais un centre de vaccination qui a fermé en été parce qu'il n'y avait plus de demande. J'ai demandé à le réouvrir et l'État explique, traîne les pieds et le centre n'est pas réouvert. Et donc, je crois que la vraie question désormais, maintenant, de la vaccination troisième dose, c'est la logistique. Il ne faut vraiment pas que nous ayons les mêmes difficultés techniques que nous avons pu avoir au début de l'année.
Est-ce que À terme, il faudra aller plus loin, un pass sanitaire pour aller travailler comme en Italie, un pass vaccinal, c'est le débat qui monte, pour prendre les transports en commun comme en Allemagne, ou même la vaccination obligatoire comme en Autriche. Quelque part, on est à peu près toujours dans la même logique. Est-ce que face à la dynamique de ce variant Delta, il faudra aller plus loin sur la vaccination, en tout cas sur la contrainte hein.
Écoutez, je ne sais pas, mais vous savez, la France est un drôle de pays où on se pose des questions qui ne se posent pas encore. Déjà, essayons de vacciner, ne serait-ce qu'une première fois, parce qu'il y a des gens de 85 ans qui n'ont toujours pas eu la première dose. Je crois même pouvoir vous affirmer, sans trop me tromper, que quand vous avez 85 ans en France, aujourd'hui, vous êtes moins souvent vacciné que quand vous en avez 45. Ensuite, faisons la troisième dose pour tout le monde, puis après, il sera temps de nous poser des questions en fonction de l'évolution des choses. Vous savez, c'est toujours pareil.
L'évolution, on va la guetter, bien entendu, chez vous aussi, à l'hôpital, parce que les chiffres, là aussi, grimpent. Il y a plus de 8500 malades du Covid dans les lits des hôpitaux français aujourd'hui. Vous, vous avez dit nos hôpitaux sont à l'os ces derniers jours. Est-ce que dans votre service, effectivement, déjà ça se tend ? Est-ce que le planning des fêtes de fin d'année est déjà un casse-tête ?
Ça fait plusieurs semaines que c'est très très tendu dans nos services d'urgence en France. Nous avons à la fois quelques malades Covid, mais surtout beaucoup de patients qui n'ont pas le Covid et qui se présentent aux urgences. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont en retard sur leur traitement à cause de l'épidémie. Ils n'ont pas été traités de leur cancer, de leur maladie du cœur, etc. Ils vont pas bien. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins et d'infirmières en ville, donc ils viennent aux urgences. Bref, nous sommes submergés avant même qu'une épidémie de Covid ait repris et même avant même qu'une épidémie de grippe ait reprise.
20% de lits fermés faute d'effectifs en France, c'est ce que dit le président du Conseil scientifique. Bon, le gouvernement conteste ce chiffre. Dans votre hôpital, par exemple, combien de lits fermés ? Faute d'infirmiers, faute de candidats quelque part.
Dans mon hôpital, oui, on est autour de 20, même peut-être un peu plus. Mmh. Où les lits sont fermés, mais ils ne sont pas fermés parce que le gouvernement a décidé de fermer. Ils sont fermés parce que il n'y a pas suffisamment d'infirmiers ou d'aides-soignants qui prennent leurs fonctions. Et donc la question n'est pas budgétaire. La question c'est que nous n'avons pas formé suffisamment d'infirmières. Mmh. Mmh. Vous voyez par exemple, une des mesures qu'on aurait dû prendre là aujourd'hui, c'est de dire on va ouvrir une promotion de la Toussaint où on va faire une deuxième entrée dans les écoles d'infirmières. Parce que on nous explique que la prochaine arrivée massive des infirmières dans les hôpitaux, c'est au mois de septembre prochain. Mmh. Mais on ne va jamais arriver à tenir jusqu'au mois de septembre.
Mmh. Toujours sur l'épidémie, l'Agence européenne du médicament a dit oui à la vaccination des enfants aujourd'hui. Le processus des autorisations va être enclenché avec les autorités sanitaires ici en France. 1500 nouvelles classes fermées en 48 heures. Je ne sais pas si c'est le cas déjà dans votre commune, des classes fermées. Est-ce que la question de la vaccination va se poser pour les 5-11 ans, là, dans les semaines qui viennent, presque fatalement ?
Assez probablement, même si je préfère ne pas vous répondre sur la pertinence de la décision, parce qu'il faut d'abord que je lise attentivement tous les papiers scientifiques qui ont été écrits sur la chose. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs papiers que j'ai lus qui montrent qu'il y a une très grande efficacité du vaccin chez l'enfant. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a des effets à booster une immunité ainsi chez les enfants ? Moi, je pense qu'on va y venir, que ça sera sage, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais je crois aussi une deuxième chose, et là aussi, ça fait plusieurs mois que j'alerte M. Blanquer, qu'il regarde ce qui se fait à l'étranger. En particulier en Allemagne, ils ont un système, en Grande-Bretagne, un système d'autotest. Les enfants se testent deux fois par semaine chez eux, à leur domicile. Et on nous a dit pendant des semaines, on nous a seriné qu'on allait faire pareil, on ne l'a jamais fait. En fait, là, pour le coup, l'école est vraiment le parent pauvre de la lutte contre l'épidémie. Il faut donner des autotests à tous les enfants, tous les collégiens, tous les lycéens, tous les professeurs, deux par semaine minimum. C'est comme ça qu'on s'en sortira.
Philippe Juvin, vous êtes médecin, mais vous visez aussi la candidature LR à la présidentielle. Le congrès, c'est dans un peu plus de 8 jours maintenant. Vous dites que vous êtes le candidat du service public, on vient de l'entendre, vous vous battez pour l'hôpital, vous réclamez un renforcement du service public pour la Guadeloupe, davantage de moyens pour la police. Vous détonnez un peu, non, dans ces débats avec les autres candidats LR qui, eux, visent plutôt des suppressions de postes de fonctionnaires.
Moi je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on manque d'infirmières, d'aides-soignantes, de policiers, de juges, de douaniers, les bureaux de poste qui ferment, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et on va m'expliquer qu'on va supprimer des fonctionnaires. Mais pardon, moi je ne vois pas comment c'est techniquement possible. Donc oui, c'est vrai, je détonne, parce que la droite, elle a intérêt à défendre les services publics pour deux raisons. D'abord parce que le service public qui fonctionne et qui est efficace, c'est tout le sujet d'ailleurs, il faut le rendre efficace, eh bien c'est une garantie d'égalité de traitement sur le territoire. Et puis c'est une deuxième condition, c'est une condition de prospérité du pays. Parce que quand vous avez une école qui fonctionne, une population qui est soignée et une population qui est protégée, eh bien le pays est prospère. Et plutôt que diminuer le nombre de fonctionnaires, ce que propose un certain nombre de mes concurrents, moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je vais rendre les services publics plus efficace.
Un mot pour terminer de l'actualité dramatique des dernières heures. 27 migrants morts dans ce naufrage absolument terrible en mer du Nord. On a la sensation que ce dossier du côté de Calais notamment est ouvert depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Paris et Londres, et c'est encore le cas aujourd'hui, se renvoient la balle. Vous feriez quoi, le candidat à la présidentielle ?
Moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais La réflexion que ça m'inspire, ce drame, c'est que c'est une trahison. C'est la trahison, en fait, d'une Afrique qu'on laisse à son propre sort. Moi, je crois que le vrai sujet de cette immigration qui meurt dans les mers, c'est le fait qu'on n'a pas suffisamment en Afrique de raisons pour les Africains de rester en Afrique. Ils veulent partir. Moi, je veux un grand plan d'investissement en Afrique. Je pense que la question de l'immigration, elle se traite à la racine. Il faut développer les infrastructures en Afrique pour que les Africains puissent rester et vivre correctement, être éduqués, soignés et prospérer en Afrique. Un grand plan d'investissement pour l'Afrique, c'est la condition sine qua non pour que nos politiques d'immigration fonctionnent et pour que les gens cessent de mourir en mer.
Merci Philippe Juvin. Candidat Les Républicains à l'investiture du parti pour la présidentielle, le congrès ce sera donc, on l'a dit, dans 8 jours, mais aussi chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Merci.
Merci.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une toute petite pause et ensuite RTL Soir continue dans les dessous de l'actu. On va aller rejoindre notre envoyé spécial à Tombouctou, au Mali, où l'armée française fait ses valises. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, nous allons ouvrir des livres érotiques. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée, RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
On vous rappelle les titres de l'actualité. Alexandre de Saint-Aignan, on vous écoute.
Pour la première fois depuis l'été dernier, le taux d'incidence repasse au-dessus de 200 à l'échelle nationale. Face à la montée de la cinquième vague, le ministre de la Santé a annoncé tout à l'heure l'ouverture de la troisième dose désormais pour tous les adultes à partir d'après-demain. 400 000 créneaux réservés cet après-midi, rien que sur Doctolib. Autre nouveauté, les tests anti-Covid désormais valides 24 heures au lieu de 72. Une nouvelle contrainte pour le passe sanitaire. Jusqu'à 8500 classes fermées, un véritable casse-tête pour les parents. La règle va changer à partir de la semaine prochaine. En cas de contamination d'un élève, tous ses camarades devront se faire tester. Les négatifs pourront retourner à l'école. Enfin, le foot, Marseille contre Galatasaray dans un quart d'heure en Ligue Europe. Et puis en Ligue Europe conférence, Stade Rennais contre Vitesse Arnhem.
Merci Alexandre, bonne soirée. Le temps, Peggy, pour
des
demain.
Des nuances de gris quasiment partout demain, sauf près de la Méditerranée où là, il y aura du soleil avec beaucoup de vent, des averses orageuses en Corse. De la pluie et de la neige à basse altitude entre les Pyrénées, le massif central et la façade est le matin. Du sud-ouest au nord-est l'après-midi. Puis une nouvelle perturbation va arriver par la Manche. Elle gagnera l'Île-de-France l'après-midi avec du vent. On se couvre, encore pas mal de gelée demain. Et les maximales de 2 à 8 au nord, 8 à 11 au sud, jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous du retrait de l'armée française au Mali. D'ici 2023, nos effectifs militaires seront divisés par deux et nos soldats rétrocèdent petit à petit leur base dans le nord du pays aux forces locales, des bases avancées pour affronter les djihadistes au Sahel. Bonsoir Émilie Beaujard.
Et bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur la base de Tombouctou. 200 militaires y sont installés depuis 8 ans. Déjà, racontez-nous, à quoi ressemble ce site ?
Alors, c'est un grand terrain entouré d'énormes blocs de sable et de béton. Ils servent en fait d'enceinte et de protection en cas d'attaque. Il y a bien sûr des miradors et des soldats qui gardent les entrées. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, il y a les lieux de vie des militaires, des grandes tentes avec une dizaine de lits picopartants, un réfectoire, des salles de commandement, une salle de sport. Il fait très très chaud, 38 degrés en ce moment, l'été ça monte jusqu'à 50. Heureusement pour les soldats de Barkhane, il y a la clim dans la tente. Particularité aussi de cette base, comme sur celle de Gao, tout le monde, y compris les journalistes, doit se déplacer avec un garrot accroché du côté gauche de la ceinture, mesure de protection en cas d'attaque de la base et de blessés graves.
Cette base, Émilie, ce sera la dernière à être rétrocédée aux Maliens ?
Oui, après Kidal et Tessalit, c'est au tour de Tombouctou et c'est un symbole fort puisque la ville avait été reprise aux djihadistes en 2013 par les soldats français. 8 ans après, il est temps donc de partir. Le démontage a déjà commencé, des camions partent et arrivent tous les jours et d'ici fin décembre, les 200 soldats français auront quitté les lieux.
Mais tout va être démonté à ce moment-là ?
Alors non, l'idée en fait c'est de laisser sur place le minimum pour que les forces armées maliennes puissent s'installer convenablement. L'armée française laisse des tentes, des lits, des frigos et les blocs de sable dont on parlait au début. En revanche, tout le matériel stratégique est enlevé et sera dispatché sur d'autres bases françaises.
Les dessous du redéploiement des forces françaises au Sahel depuis Tombouctou au Mali avec notre envoyé spécial Émilie Beaujard. Merci Émilie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34 minutes, vous écoutez RTL.
Laissez-vous tenter dernière.
Et toute autre chose, parce que laissez-vous tenter dernière, vous le savez, c'est la jolie respiration chaque soir, les bons conseils de la bande de LVT. Julia Molcou est avec nous ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et on va s'intéresser à un salon littéraire pas tout à fait comme les autres.
Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Il était temps que j'arrive, non?
Alors, si je vous emmenais faire un tour du côté du salon de la littérature érotique, ceci n'est pas une plaisanterie. Il aura lieu dimanche 28 novembre à la Bellevilloise, à Paris.
C'est une idée originale. Quel est le programme?
Comme dans un salon littéraire classique, vous allez pouvoir découvrir des ouvrages, des maisons d'édition, rencontrer des auteurs comme Julia Pietri, Ivo Da Silva, Chloé Safi ou encore Maya Mazorette, considérée comme la journaliste sexo en France aujourd'hui, ou encore Dora Mouto, la fondatrice de Tajoui, ce compte Instagram qui réunit plus de 530 000 followers. Elles seront toutes les deux présentes dimanche. Et puis, vous pourrez assister à différentes conférences et repartir avec plein de conseils pour bien écrire de la littérature érotique. Et si vous vous sentiez déjà parfaitement à l'aise avec l'exercice, eh bien à 20h, la scène vous sera ouverte et vous pourrez venir lire vos propres textes. Julien, je ne sais pas si vous écrivez.
Je vais y songer.
Très
Julien.
Bien. Et Peggy, vous vous y êtes lancée?
Absolument pas, mais la lecture me suffit.
Eh bien, qui sait? Peut-être que sommeille en vous le nouvel Apollinaire ou le nouveau Louis Aragon qui, rappelons-le, a accordé une place de choix dans son œuvre à l'écriture du désir et de la sexualité et qui publiait anonymement en 1928 un texte intitulé « Le con d'Irène », considéré par Albert Camus comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature érotique. Évidemment, à l'époque, l'ouvrage sera frappé de plein fouet par la censure,
oui.
Pas encore tout à fait prête à se plonger dans 90 pages de déclarations d'amour au sexe féminin. Presque 100 ans plus tard, les choses ont changé. Si vous voulez découvrir d'autres titres et peut-être même vous faire une idée précise et claire sur ce que c'est que la littérature érotique aujourd'hui, eh bien rendez-vous au salon littéraire qui se tiendra à la Bellevilloise, à Paris, dimanche.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Julia, pour ce conseil original.
On va tous ensemble.
Il détonne un petit peu dans Laissez-vous tenter dernière.
Laissez-vous tenter dernière.
Pause et la suite dans RTL Soir, c'est On défait le monde, bien entendu, avec Cyprien Sini, Laurent Tessier, Céline Andreau qui s'installe en ce moment en studio. Ils font tout tomber, tout
je
va bien.
Je viens de chasser Peggy.
Mais oui, je sais. Ne la poussez pas trop fort, s'il vous plaît, Cyprien.
Et bonsoir, en fait.
Bonsoir, les amis.
Ah, bonsoir.
Il manquait quelque chose.
Il manquait juste un petit bonsoir. Et dans un instant, on va tout vous dire sur le business du sapin de Noël, parce qu'on est à un mois de l'ouverture des cadeaux et à un mois de Noël.
Ah oui.
On a aussi un chèque de 1000 euros. Voilà. Vous offrir. Voilà, donc restez près de votre téléphone parce qu'on va vraiment piocher quelqu'un au hasard dans la nuit. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.